Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 28 juin 2023. En direct de Washington, Idrissa Sevulia. Pour commencer, les titres. En Sierra Leone, le président Bio prête serment après sa réélection contestée. Au Burkina Faso, au moins 34 soldats et supplétifs de l'armée tués dans une attaque de djihadistes présumés. Le vote sur l'avenir de la mission de l'ONU au Mali reporté à vendredi. Violent combat à Khartoum hier à la veille de l'Aïd al-Adha ou fête du mouton, célébrée ce mercredi ou demain jeudi par les musulmans du monde. Les États-Unis annoncent des sanctions s'en prenant au financement du groupe de mercenaires russes Wagner en Centrafrique. En Ukraine, au moins 4 morts dans une frappe russe contre un restaurant à Kramatorsk. Ne manquez pas notre passeport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En Sierra Leone, le président sortant, Julius Maada Bio, a été réélu dès le premier tour pour un deuxième mandat avec 56,17% des voix, a indiqué mardi le chef de la commission électorale, John Linden.
En vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés, je certifie par la présente que Julius Maada Bio est élu président lors de l'élection du 24 juin 2023, a déclaré sous les applaudissements Mohamed Kenewi Kone lors d'une conférence de presse à Freetown. Le principal adversaire de M. Bio, Samora Camara, arrive en deuxième position avec 41,16% des voix. Il a, dans la foulée, déclaré qu'il rejette catégoriquement les résultats qu'il juge pas crédibles. Je m'élèverai au-dessus de cette parodie et je m'engage à continuer le combat sans préciser ce qu'il entendait par là. Quelque 3,4 millions de personnes étaient appelées à choisir entre 13 candidats pour la présidentielle qui s'est déroulée globalement dans le calme.
Au Burkina Faso, des dizaines de soldats et des VDP ou volontaires pour la défense de la patrie ont été tués dans deux attaques menées par des djihadistes présumés dans le nord du pays. Rosine Mounezero.
Selon un communiqué de l'armée burkinabé, un convoi de ravitaillement escorté par des militaires de retour de Djibo a été la cible d'une embuscade le lundi 26 juin dans la localité de Namsingwia, dans la province du Bam. Les combats particulièrement violents ont causé d'importantes pertes. Le bilan provisoire fait état de 31 militaires tués, 3 VDP et une vingtaine de blessés. Une dizaine d'éléments sont toujours portés disparus et sont recherchés par les renforts déployés pour des opérations de ratissage. Selon ce communiqué, plus de 40 terroristes ont été neutralisés. Par ailleurs, des groupes djihadistes présumés ont attaqué le village de Noaka dans le nord du pays, visant les volontaires pour la défense de la patrie, a déclaré une source de sécurité qui a fait état de plusieurs dizaines de morts, dont des soldats et VDP, qui sont des volontaires civils qui reçoivent une formation militaire de 2 semaines. Ils travaillent aux côtés de l'armée pour des missions de surveillance, de collecte d'informations ou d'escorte.
Merci Rosine. Ajoutons aussi que 28 cobras, c'est-à-dire des éléments des forces spéciales, ont été tués mardi à Satiri dans l'ouest du Burkina. En 2 jours, plus de 200 soldats VDP et civils ont été tués dans ce pays. Le vote du Conseil de sécurité de l'ONU qui devrait acter la fin réclamée par Bamako de la MINUSMA a été reporté de jeudi à vendredi, dernier jour du mandat en cours de la mission de l'ONU au Mali, selon des sources diplomatiques. La raison, les discussions qui se poursuivent le 16 juin, prenant tout le monde de court. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, avait exigé le retrait sans délai de la MINUSMA, dénonçant son échec. Alors que le consentement de l'État hôte est l'un des principes du maintien de la paix, le projet de résolution proposé par la France à la manœuvre sur le dossier malien au Conseil de sécurité propose de mettre un terme à la mission tout en prévoyant une période de 6 mois pour le retrait des plus de 12 000 soldats et policiers déployés, selon des sources diplomatiques. Au Soudan, les combats ont fait rager à Khartoum entre les militaires et les paramilitaires à la veille de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha. Le point avec Jean-Roger Bion.
À Khartoum, les combats entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Abdan Daglo se sont concentrés autour des bases militaires. Les forces de soutien rapide ont pris le quartier général de la police, son immense arsenal et ses camps d'entraînement. Hier mardi, elle harcelait encore l'armée sur ses bases dans le centre, le nord et le sud de la capitale. L'armée doit aussi faire face à de nouveaux fronts. Un groupe rebelle l'attaque dans les régions du Kordofan et du Nil Bleu. Au Kordofan Sud, les autorités locales ont décrété un couvre-feu nocturne. Au Darfour, des habitants accusent les anciens miliciens de piller les stocks humanitaires, les usines et des maisons abandonnées. La Troïka pour le Soudan, Norvège, États-Unis et Grande-Bretagne a dénoncé des violations des droits humains et des violences à caractère ethnique attribuées aux forces de soutien rapide et ses milices alliées. Le général Daglo a répondu que les FSR vont prendre des actions strictes contre ceux qui ont mené de telles exactions et ont même commencé, selon lui, à juger certains de ses membres indisciplinés.
Les États-Unis ont annoncé hier de nouvelles sanctions contre les activités du groupe de mercenaires russes Wagner en Centrafrique notamment, quelques jours après une mutinerie avortée de son chef Evgeny Prigogine. Les détails avec Michel Joseph.
Les sanctions américaines visent la compagnie minière Midas Resources, qui possède plusieurs mines en Centrafrique, ainsi que Diamville, spécialisée dans les transactions sur l'or, toutes deux contrôlées par M. Prigogine, a indiqué le département du Trésor américain. Les sanctions visent aussi une autre société basée à Dubaï, Industrial Resources General Trading, accusée de gérer les transactions pour le compte de Diamville. Le groupe Wagner finance ses opérations brutales, en partie grâce à l'exploitation de ressources naturelles dans des pays comme la Centrafrique et le Mali, a affirmé le sous-secrétaire au Trésor Brian Nelson, cité dans un communiqué. Les États-Unis continueront de cibler les sources de revenus du groupe Wagner afin de l'empêcher de s'étendre en Afrique, en Ukraine ou ailleurs, a-t-il ajouté. Peu auparavant, le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, avait annoncé l'imminence de ces sanctions et, à nouveau, dénoncé les activités du groupe Wagner en Afrique. « Nous pensons que là où va Wagner, il sème la mort et la destruction dans son sillage », a déclaré à la presse M. Miller, en enjoignant les gouvernements en Afrique ou ailleurs à cesser toute coopération avec Wagner.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'OTAN est prête à se défendre contre toute menace en provenance de Moscou ou de Minsk, a affirmé mardi le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg, après que le Bélarus a annoncé accueillir le patron de Wagner, Evgeny Prigogine. M. Stoltenberg a indiqué que l'OTAN allait décider de renforcer ses systèmes de défense lors d'un prochain sommet à la mi-juillet en Lituanie afin de protéger tous ses membres, particulièrement ceux ayant une frontière avec la Russie et le Bélarus. Il est trop tôt pour porter un jugement définitif sur les conséquences de l'installation de Prigogine au Bélarus et sur la très probable présence également au Bélarus d'une partie de ses forces, a déclaré à La Haye M. Stoltenberg après un dîner avec 7 chefs d'État ou de gouvernement de l'Alliance. Le Pentagone a annoncé mardi une nouvelle tranche d'aide militaire américaine de 500 millions de dollars à l'Ukraine, comprenant notamment des défenses antiaériennes et des véhicules blindés. En Ukraine, même une frappe a visé le cœur de Kramatorsk dans l'Est, dernière grande agglomération sous contrôle ukrainien dans l'Est du pays, s'abattant sur un restaurant bondé en faisant au moins 8 morts, dont 3 enfants, ainsi que 56 blessés, selon un nouveau bilan. Plus de 1,8 million de pèlerins à la Mecque entame ce mercredi le rituel de la lapidation de Satan, sur le site de Mina, dernière étape majeure du Hajj, au premier jour de la fête la plus importante du calendrier musulman, l'Eid al-Adha. Cette fête est célébrée par les musulmans à travers le monde en souvenir du sacrifice qu'avait failli accomplir Abraham ou Ibrahim en voulant immoler son fils avant que l'ange Djibril ou Gabriel ne lui propose in extremis de tuer un mouton à sa place selon la tradition. À cette occasion, les pratiquants égorgent une bête, en général un mouton, et offrent une partie de la viande aux nécessiteux. Minute Éco, Nani Talani.
Cinq groupes d'activistes ougandais et français ont intenté en France une deuxième action en justice contre la société pétrolière Total Energy pour ses projets en Ouganda et en Tanzanie. Total est accusé de ne pas protéger les personnes et l'environnement pour son projet Tilenga et un oléoduc. Les accusations concernent le manque de paiement en temps opportun pour le terrain sur lequel sera construit le pipeline et les maisons endommagées par les inondations lors de la construction des installations pétrolières. En Afrique du Sud, les agriculteurs devraient récolter 5,7% de maïs en plus au cours de la saison 2022-2023, soit 16 millions de tonnes contre 15 millions récoltées la semaine dernière, a annoncé le gouvernement. La récolte devrait se composer de 8,64 millions de tonnes de maïs blanc utilisées pour la consommation humaine et de 7,72 millions de tonnes de maïs jaune utilisées principalement dans l'alimentation animale. Pour terminer, le ministre namibien des Mines n'avait pas le pouvoir d'annuler la licence d'un mineur chinois de lithium, Zifeng, et aurait dû saisir les tribunaux pour la révoquer, a déclaré mardi un juge. Le ministre Tom Aluendo a annulé la licence d'exploitation de Zifeng en avril, lui ordonnant d'arrêter ses opérations pour n'avoir pas, selon lui, obtenu la licence suivant un processus normal.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Guinée se relance dans la CAN des moins de 23 ans.
Oui, après sa défaite lors du match inaugural devant le pays hôte, le Maroc, la Guinée s'est imposée 3-1 face au Congo lors des matchs de la deuxième journée hier mardi. Du coup, le Sili National Espoir occupe la deuxième place du groupe A devant le Ghana, laminé par le Maroc 5-1. Les Lionceaux Espoir s'installent confortablement à la première place de cette poule A avec 6 points en 2 sorties. Les matchs de cette deuxième journée de la phase de poule se poursuivent ce mercredi avec les rencontres du groupe B. Le leader, le Mali, fait face à l'Égypte et le Gabon peut se relancer devant le Niger.
Le match d'ouverture du mondial féminin se jouera à guichet fermé.
Dave Bichi, directeur général de la Coupe du monde féminine, a indiqué que le match d'ouverture de l'Australie, co-organisatrice du mondial féminin contre l'Irlande, est complet au stade Australia de Sydney. Ce stade peut accueillir environ 80 000 spectateurs. Bichi s'attend aussi à une foule nombreuse le même jour à Auckland, où la Nouvelle-Zélande, co-organisatrice, entamera sa campagne contre la Norvège. À moins de 25 jours du coup d'envoi, le patron du tournoi affirme qu'il ne reste que quelques milliers de billets pour le match d'ouverture des Football Ferns à l'Eden Park, dont la capacité est d'un peu moins de 40 000 places. Selon la FIFA, environ 1,1 million de billets ont été vendus pour les 64 matchs en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le Maroc, la Zambie, le Nigeria et l'Afrique du Sud seront les représentants de l'Afrique à ce mondial féminin.
Le PSG va dévoiler le nom de son nouvel entraîneur la semaine prochaine.
Le successeur de Christophe Galtier au poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain sera annoncé et présenté la semaine prochaine. C'est une source proche des négociations qui en a fait l'annonce à l'AFP. L'ancien sélectionneur de l'Espagne, Luis Enrique, fait figure de grandissime favori pour remplacer le technicien français. Début juillet, à l'issue d'une saison compliquée au niveau sportif et extrasportif, malgré l'obtention du 11e titre de champion record, Christophe Galtier a été informé qu'il n'effectuerait pas sa seconde année de contrat avec le PSG qui courait jusqu'au 30 juin 2024. C'est la première fois sous l'ère qatari qu'un entraîneur reste une seule année sur le banc parisien. Recruté l'été dernier par Luis Campos, avec qui il avait déjà travaillé à Lille, Galtier perd la seconde moitié de saison de son équipe, souvent sans envie, sur le terrain.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Beaucoup de pays d'Afrique célèbrent ce mercredi ou demain jeudi la fête musulmane de l'Aïd al-Adha, communément appelée Tabaski. Cette fête du mouton commémore le sacrifice d'Ibrahim ou Abraham. Au Burkina Faso, l'inflation jumelée au contexte sécuritaire fait que cette année, les populations ont du mal à tenir. Certains n'ont pas de quoi s'acheter le mouton et des vendeurs de moutons sont obligés de baisser considérablement leur prix pour pouvoir eux aussi joindre les deux bouts. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré, qui était dans l'un des nombreux marchés de moutons pour la Tabaski.
Nous sommes à Karpala, un des quartiers populaires de Ouagadougou. Un marché improvisé de moutons s'est installé ici. La fête, c'est demain. Vendeurs et acheteurs sont tous ici. Mohamed Lawal est un vendeur de moutons. Sur 100 moutons qu'il a amenés, il ne lui reste que 4. Mais attention, le vendeur estime qu'il a vendu pour vendre.
Bon, la marché n'est pas bon. Les gens, les biens, ça ne fait pas bien. Donc, tu es allé un mouton, il fait 100 000, combien? Donc, il n'y a pas un bon marché. Donc, c'est le monsieur Dieu. Il n'y a pas l'argent. C'est quelqu'un qui va vendre 150 000, 110 000, 100 000, 100 000, 120 000. Là, le monsieur dit, Inch'Allah.
Alassane Nana est aussi un vendeur de moutons.
À quoi de Burkina Faso, là, c'est dur, hein, voilà, puisque dans le brousse, là, c'est chaud avec ça, là, il n'y a pas de manger, il n'y a pas l'argent.
La situation semble être difficile pour tous. Les acheteurs en sont bien conscients. Sayouba Sanfo, acheteur.
Je suis venu pour demander les prix. Je voulais payer, mais bon, les prix sont abordables. C'est que bon, mais cette année-là, on n'est pas dans le pays, là, un peu comme on est dans la guerre, là, il n'y a pas assez d'argent.
À cause des situations nationales, en tout cas, beaucoup de choses sont ralenties, les activités sont ralenties. Donc, ça fait que les gens ont des problèmes pour avoir des moutons parce qu'il n'y a pas d'argent.
Ousseini Zungrana est un acheteur.
Il y a pour 200 000, il y a pour 300 000, il y a 150 000, 125 000 et puis 100 000.
Vous pensez que c'est cher?
Ah bon, je peux trouver que ce n'est pas cher parce qu'à l'heure là, pour avoir les maillots pour donner le mouton là-même là, c'est un peu cher quoi. Et puis le temps aussi, c'est un peu compliqué.
Mamadou Rwamba, un autre acheteur.
Je suis venu pour acheter les moutons. Bon, les moutons, là, les prix, là, c'est abordable. Mais cette année, avec comme les nourritures, là, c'est difficile. Les soins, là, c'est difficile. Bon, on les accuse pas aussi. Donc, on les apprécie aussi de continuer à élever aussi. Là aussi, nous aussi, on va payer aussi. Les gens n'ont pas l'argent pour payer. Quand on regarde même, bon, c'est pas facile avec les gens. Mais on prie que toute chaque chose, ça va améliorer. Dès que si à l'intérieur, là, dès que dans la bouche, là, si ça améliore seulement, on pense que dès que ça va aller.
Avec l'inflation et l'insécurité, cette année, le mouton ne sera pas accessible à tous ces musulmans dont certains seront obligés d'utiliser d'autres plans, comme les poulets et autres gallinacés. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Lamine Traoré de Ouagadougou, hier, mardi.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Gabon, l'opposition se bat pour son unité, un défi à relever au plus vite selon la plateforme Alternance 2023. Cette coalition qui regroupe plusieurs formations politiques et leaders de la société civile doit se trouver des candidats consensuels avant le triple scrutin prévu le 26 août prochain. La course contre la montre est engagée dans les écuries politiques après la publication du calendrier électoral, nous dit de Libreville notre correspondant Ismaël Obiangze.
2023 ne sera pas 2016, martèle-t-on au sein de la plateforme politique de l'opposition Alternance 2023.
En prévision des élections du mois d'août, elle a fait le choix des candidatures consensuelles. Une option visiblement contraire aux attentes d'une bonne partie de l'opinion, plutôt favorable à l'idée d'une candidature unique. Mike Joktan, candidat indépendant à la présidentielle.
Vu la configuration politique de notre pays, avec toutes les oppositions qui existent, on ne peut plus parler de candidature unique. On peut parler simplement d'une candidature de large consensus.
Pour Paulette Nissambo, présidente de l'Union nationale, la cohésion de l'opposition est une préoccupation partagée par ses leaders.
Nos partis sur le terrain, ils se parlent. Ils s'entendent dans le sens de constituer des candidatures consensuelles. Donc je voudrais le préciser parce que faut pas que vous partiez avec l'idée que rien ne se passe. Non, nous travaillons.
Déterminée cette fois-ci à imposer l'alternance par la voie des urnes, l'opposition joue son va-tout. Alexandre Barrault-Chambrier, président du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité.
Nous pensons qu'il faut effectivement recentrer le débat et considérer que cette élection est importante. Nous n'avons pas le droit de gaspiller cette chance.
La coalition Alternance 2023 compte déjà pas moins de 5 candidats déclarés à la présidentielle. Elle rassure les plus sceptiques sur sa capacité à surmonter les divisions en moins de 2 mois des élections.
Nous disons avec respect et modération que non, nous avons à l'intérieur, au sein de l'Alternance 2023, des personnes responsables, des personnes capables de surmonter leurs ambitions et de trouver parmi elles un représentant à l'élection présidentielle. Nous allons le trouver, et si vous regardez dans le passé, vous remarquerez que ça s'est toujours fait dans les dernières minutes.
Au pouvoir depuis 14 ans, le chef de l'État sortant Ali Bongo Ondimba s'apprête à boucler une longue tournée dite républicaine qu'il a conduite dans les 9 provinces du pays, ce qui ressemble à une tournée de campagne. Pour le moment, il n'a rien dit sur ses intentions, mais son parti, le PDG, affirme que l'annonce de sa candidature pourrait intervenir d'ici début juillet. Libreville, Ismaël Obianze pour VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Après la rébellion avortée de Wagner en Russie, l'avenir du groupe de mercenaires préoccupe autant en Russie qu'à l'étranger, notamment en Afrique où, disent les Occidentaux, la milice privée offre ses services à certains gouvernements comme le Mali et la République centrafricaine. Pour une analyse, Mohamed Humfa a joint Ngoy Tshibambe Germain, professeur au département des relations internationales à l'université de Lubumbashi en RDC.
Ça crée un temps de subjugation, un moment d'incertitude et surtout un temps fort d'inquiétude, surtout à l'égard de ceux de pays africains qui s'étaient déjà engagés dans la voie de partenariat, de coopération, sinon de protection vis-à-vis de la Russie à travers ces groupes ici. Mais il est aussi important de noter que après l'intervention faite par le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, lorsqu'il a annoncé que les activités du groupe Wagner vont continuer en Afrique, le pays africain bénéficiaire de ces services, de ces groupes, sont entrés dans une phase de ce que j'appelle la zone de certitude, sinon une zone d'apaisement.
Oui, le ministre russe des Affaires étrangères a annoncé que Wagner continuerait ses activités, notamment au Mali et en Centrafrique. Mais il y a eu la sortie du président russe, Vladimir Poutine, qui a dit que les éléments de Wagner peuvent intégrer l'armée ou alors partir en Biélorussie. Est-ce que ce n'est pas un son de cloche discordant?
D'abord, il faut reconnaître que, quoi qu'il en soit, le groupe Wagner peut être considéré comme un bras armé au service de la politique étrangère de la Russie. Ça, c'est vraiment une évidence. Alors, que le nom change, qu'on envoie d'autres troupes, je pense que pour les États africains engagés dans les interactions avec la Russie, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ce qu'attendent les États africains, c'est beaucoup plus la sécurité, plus la provision de la défense. Et si la Russie, en tant que gouvernement, peut assurer cela aux États africains, quelque soit la dénomination de ce que j'appelle le bras séculier, je pense qu'il n'y a pas tellement d'inquiétude.
Ngoy Tshibambe Germain, professeur au département des relations internationales à l'université de Lubumbashi en RDC.
Washington Forum cette semaine avec Alexandrine Rolognon.
De l'espoir loin de chez soi pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place, c'est le thème retenu cette année pour la Journée mondiale du réfugié, une journée célébrée chaque 20 juin pour rendre hommage aux personnes qui ont été forcées de fuir leur milieu de vie. Selon les Nations Unies, à la fin de 2022, on compte plus de 100 millions de personnes déplacées de force dans le monde. Qu'est-ce qui est fait dans les différentes zones de conflit en Afrique pour aider les personnes déplacées à retrouver leur communauté d'origine? Rendez-vous ce jeudi dans Washington Forum à 19h en temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Les Nations Unies affirment que dans la région du Darfour, dans l'ouest du Soudan, les conflits et les troubles ont déclenché des violences sexuelles à l'encontre des femmes. De nombreuses personnes qui ont fui la région pour se réfugier au Tchad voisin déclarent que l'ordre public s'est complètement effondré, ce qui a permis de multiplier les attaques contre les femmes. Dans ce reportage réalisé à Koufrine, au Tchad, Henry Wilkins s'est entretenu avec des survivantes de violences sexuelles. Le récit est de Yacouba Ouedraogo.
Cette femme, dont la VOA ne divulgue pas le nom pour la protéger, a fui le Darfour lorsque les combats ont éclaté dans sa ville natale de Tindelti. Elle raconte que des hommes, des Janjaouides, un groupe armé d'origine essentiellement arabe qui s'en prend aux Soudanais noirs, sont entrés dans la maison où elle et sa sœur s'abritaient des combats. Elle affirme que les hommes les ont toutes les deux violées. Mouna Malek est une militante pour l'égalité des sexes au Darfour. Elle recense les cas de viol dans cette région du Soudan depuis le début de la guerre civile qui a déclenché des violences intercommunautaires généralisées. Cette guerre oppose des généraux rivaux engagés dans la lutte pour le pouvoir.
De nombreux civils ont été tués, hommes, femmes et enfants. Des vols ont été commis dans les propriétés privées et publiques. Ils ont même brûlé des bâtiments. Par-dessus tout, des femmes et des jeunes filles ont été violées.
Madame Malek affirme avoir recensé elle-même 11 cas de viol, mais ce n'est probablement qu'un début. Les Nations Unies se sont déclarées gravement préoccupées par les informations faisant état de violences sexuelles, y compris de viols, à l'encontre de femmes pendant le conflit au Soudan. La plupart des enquêteurs et des journalistes n'ont pas pu se rendre au Soudan depuis le début du conflit. Il est donc difficile de connaître l'ampleur des crimes. Les Nations Unies font une distinction entre les cas isolés de viol en temps de guerre, qui sont punis par la loi pénale nationale, et les viols systémiques généralisés, qui sont considérés comme des crimes de guerre en vertu du droit international. Lorsqu'on lui a demandé s'il existe des preuves de viols systémiques au Soudan, Sarah Douglas, chef adjointe d'ONU Femmes, a déclaré à la VOA.
La vérification de ces cas par les Nations Unies est en cours et cela aidera à établir les schémas existants. Il y a certainement une tendance à la généralisation des cas dans les différentes zones de conflit, que ce soit à Khartoum ou au Darfour.
Des agents de santé ont déjà signalé des cas de viol et des femmes prises dans les combats ont exprimé leur peur sur les réseaux sociaux. La représentante adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population, pour le Tchad, Elise Kakam, a déclaré avoir récemment rencontré une dizaine de jeunes filles dans un site de réfugiés à la frontière tchadienne.
Dans ce groupe de personnes nouvellement arrivées, il y avait des adolescentes enceintes. Elles ont toutes entre 15 et 17 ans, c'est la moyenne d'âge. J'ai voulu savoir si elles étaient avec leur mari, mais aucune d'entre elles n'a pu me montrer un mari. Ce qui signifie que ces filles ont été victimes de quelque chose que nous ne pouvons pas identifier pour l'instant. La plupart des gens ici n'osent pas avouer qu'elles ont été violées.
La survivante, interrogée par la VOA, affirme que suite à un viol, sa sœur est présentement enceinte.
Merci Yacouba. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia. À la mise en onde, Michel Joseph. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour en suivre de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.